Alors Michel, nous restons un petit peu sur le même thème parce que finalement la pratique du c'est pas moi, c'est les autres, c'est la faute aux autres, ça se pratique vraiment dans tous les horizons, sous toutes les latitudes.
Oui. Et notamment pour ce qui concerne ce serpent de mer, si on peut parler comme ça, aux Arlésiennes,
La
enfin,
TGV, la
qu'est la
LGV, la
LGV,
LGV, la TGV.
la TGV, etc. Je veux dire, bon, ça. Mais là, quand même, ça a pris un tour assez exceptionnel d'un point de vue médiatique. C'est la première fois, enfin, à ma connaissance, hein, que dans l'histoire des médias, j'assiste en fait, à une telle campagne d'un groupe de presse comme La Dépêche. En faveur de la DLGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan. Quand même.
Bon, mais là, sur le fond, est-ce qu'on leur
Non, non,
donne tort
non.
ou pas?
Article dans la
Ah
presse.
Oui.
Presse.
Là, ça se
pétition,
déchaîne. Ça se déchaîne.
Publication d'un sondage demandé et payé par le groupe en question. Pétition en ligne du même groupe pour que les gens se prononcent évidemment pour les deux lignes en question. Bailey et son groupe qui, au passage, mais les gens qui habitent ici le savent, qui a une situation de monopole absolu sur les médias locaux.
Maintenant, oui.
Il n'y a pas un seul titre qui échappe
effectivement. L'indépendance, entre presse.
Pour avoir un point de vue un peu différent en critique, il faut, je ne sais pas où il faut aller, en tout cas, pas ici. Et évidemment, Mme Carole Delga a pris le relais, plutôt en même temps. Fait campagne avec M. Bailey sur le même thème. Alors, vous me direz, Carole Delga...
Elle est présidente de la région.
Elle
défend sa région.
Sa vice-présidente était Mme Pinel, l'ex-collaboratrice de M. Bailey, membre du Parti radical. Oui. Le groupe La Dépêche assure, grâce à son imprimerie...
Ce sont des gens qui se connaissent et qui se fréquentent de près.
Grâce à l'imprimerie de La Dépêche, imprime aussi le journal de la région. Enfin, bref, je passe rapidement là-dessus.
Revenons au TGV.
Mais on revient sur...
À grande vitesse.
À grande vitesse. Et on nous dit, c'est vital pour la région, c'est nécessaire, c'est prioritaire. C'est prioritaire.
Ce qui se dit depuis fort longtemps.
Et en faisant référence à des décisions qui n'ont jamais été prises par les gouvernements précédents sur le sujet. Jamais, ni aucun gouvernement de M. Hollande n'a acté qu'il y aurait une ligne TGV construite avec le plan de financement entre Bordeaux et Toulouse et Montpellier et Perpignan.
Voilà. Et parenthèse,
premier point.
Gouvernement dont Mme Delga a fait partie.
Premier point. Deuxième point, quand même. On habite à Narbonne, Jean-Claude, tous les deux, tous les quatre. La ligne TGV entre Montpellier et Perpignan, c'est 6 milliards d'euros. D'accord ?
Oui,
6 milliards d'euros.
Ça fait des sous.
Continuons. 6 milliards d'euros. Il n'y a pas que ça. Il y a deux gares prévues. Entre Narbonne et à Béziers. Une gare, c'est en moyenne entre 10 et 20 millions d'euros. Prenons la fourchette basse. Rajoutons 20 millions, il n'y en a pas 40. 6 milliards et 40 millions, et 20 millions d'euros de plus. Le gain en temps, Narbonne-Montpellier, avec cette future LGV, c'est 4 minutes. 4 minutes.
Là encore, il y a des batailles de chiffres.
C'est entre 4 et 5 minutes maximum. Ce sera un TGV omnibus.
Oui, c'est quand même un TGV qui s'arrête beaucoup.
Ça, c'est vrai. Gonongen, 4 minutes. Divisé 6 milliards par 4 minutes.
Oui, ça c'est une drôle de mathématique que tu es en train d'inventer, Michel.
Ça fait 150 millions à la minute pour grâce à... Je pose la question à nos auditeurs. Et puis surtout à M. Bailey. Est-ce que vous pensez vraiment, que pour cette somme-là et pour ce gain cette LGV est une priorité régionale afin que l'emploi et la croissance dans notre région se développent. J'ajoute...
Ce sont les arguments qui sont avancés.
Et pendant ce temps, à titre de comparaison, la SNCF, au plan national, pour mettre à jour, à niveau, le réseau existant, simplement, qui est dans un état affolant, ne met que 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros pour entretenir et moderniser le réseau national.
Puis entre parenthèses.
6 milliards d'euros. Et... 6 000, je finis, Jean-Claude. Et 6 milliards d'euros pour la ligne Montpellier-Perpignan, qui fera gagner, en fait, 4 minutes à un Narbonnais qui prendra le TGV pour aller à Montpellier. Franchement, j'aurais aimé que M. Baillet et tous les élus de droite et de gauche réunis, d'ailleurs, sur ce dossier, posent le problème en ces termes pour avoir, justement, une réponse, disons, un peu plus argumentée et un peu plus réfléchie que celle qui consiste à dire il faut une ligne TGV, en fait,
absolument
entre Bordeaux et Toulouse et entre Montpellier et Perpignan.
Mais surtout,
parce que si on n'a pas ça, on va mourir économiquement.
Mais c'est surtout sans dire qui paye, encore
c'est,
une
ce
fois.
Qui est, encore une fois, d'une encore absurdité totale.
Qu'en pense le comédien Jean-Paul Jauguin là-dessus?
Non, moi, j'ai envie de réagir chaque fois. C'est la première fois que j'assiste à l'émission, c'est très bien. Non, juste un petit... Moi, je voulais faire un petit clin d'œil, parce que j'ai été cheminot pendant des années, justement. Donc, voilà. Donc, je voudrais faire un petit clin d'œil quand même à mes camarades de cheminots et leur dire, voilà, par rapport à ce raisonnement, là, vous avez raison de vous battre quelque part pour essayer d'améliorer vos conditions. Je pense qu'il y a de l'argent qui sont non. Là. Et voilà, c'était simplement ce que ça m'a inspiré sur le coup. Quant au gain de temps, c'est vrai qu'à l'époque, tout va vite.
Petit quand même, je rajoute la fin du propos, quoi, hein. Quand même, dans un pays où nous avons un endettement public de 2000 milliards d'euros, qui est l'équivalent de la richesse produite.
Public, sans compter celui de la SNCF.
Et je rajoute 49 milliards d'euros. 50 milliards d'euros, qui sont effectivement, c'est le déficit de la SNCF, qui est garanti évidemment par l'État.
Ouais. Alors tout cela n'empêche pas M. Baillet de se consacrer à sa deuxième tâche, qui est la politique politicienne.
Oui, bien entendu.
Est-ce que le PRG est toujours en piste?
Écoute, pour le moment, on n'en sait trop rien, parce qu'ils se sont réunis, en fait, les Valoisiens, c'est-à-dire les radicaux de droite et les radicaux de gauche, se sont réunis, en fait, il y a quelques semaines, à Montpellier,
été,
pour mettre en place leur fusion à terme.
Oui.
Ça doit passer par un congrès, je crois, avant la fin de l'année. Hein, ce qui, entre parenthèses, c'est la conséquence de cette espèce de bombe politique qui est résultant, qui a été l'élection de Macron. Toute l'offre politique classique, sur laquelle nous vivions depuis pratiquement 40 ans, a explosé en plein vol. Le Parti Socialiste a quasiment disparu. Est née, la France insoumise. À droite, c'est plus où sont les républicains, entre les constructifs, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont au milieu.
Donc, finalement,
les petits radicaux qui étaient éparpillés à droite et à gauche ont dit, mais attends, il faut qu'on fasse quelque chose, autrement, on va purement et simplement disparaître.
Et alors, le paradoxe, c'est qu'au nom du nouveau monde politique, on revient dans l'ancien système.
Oui, à la troisième, à la quatrième république, en tout cas, la troisième. Je rappelle à nos auditeurs qui n'ont pas forcément une culture historique, pas tous, quand même, il y en a quelques-uns, approfondis, ce fut quand même le plus grand parti de France, quoi,
le parti
radical.
De la laïcité,
le parti
notamment.
De la laïcité,
celui qui a laïcisé le pays, ça, c'est vrai.
Exactement. Et qui a disparu, après, à la 4e République et à la 5e, pour n'être aujourd'hui que deux petits groupes
de petits morceaux
à droite et à gauche.
Sans vouloir blesser personne.
Voilà, donc du coup, on va rappeler quand même que les deux qui vont se réunir avaient de fait pris fait et cause pour Macron pendant la campagne des présidentielles et qui étaient tout assez logique qu'ils se réunissent.
Cette fusion est dans la logique d'un processus.
À la fois de destruction et de recomposition du paysage politique, et en même temps de mise en cohérence idéologique et politique de deux micro-partis qui étaient à droite et à gauche de l'échiquier, mais qui en réalité sur les fondamentaux sont pratiquement sur la même ligne. Donc ça, c'est assez là. Et donc maintenant, on attend un peu ce qui va se passer au plan national. Mais qui ne sera pas sans conséquence au plan régional et au plan local pour les élections qui viennent quand même, parce qu'il y a bientôt les européennes et après les municipales. Et je rappelle que dans le billet que je suis consacré à ce sujet, que la vice-présidente PRG de la région Occitanie, présidée par Madame Delga, qui est Madame Pinel, qui a été élue députée, forcément va abandonner son siège. La loi des cumuls va s'appliquer, donc ils sont obligés de remplacer Madame Pinel par un PRG. Mmh. Et qui? Alors là, c'est la question, qui va le remplacer? Et alors j'ai eu une information de la part de quelqu'un que, bon, qui est bien placé pour me dire ce qui se passe dans les petites sphères régionales, et qui me disait, mais c'est une nommée, Madame Soutan, PRG, que je ne connaissais pas, voisine de Béziers, qui pourrait effectivement remplacer Madame Pinel. Une femme PRG remplace une femme PRG, ce qui serait assez logique, d'une certaine manière.
Dans les logiques d'appareil politique,
il semblerait que Didier Collorgnou, en fait, au final, ne dirait pas non.
Il est dans une logique depuis longtemps.
Et il semblerait que les jeux ne soient pas faits pour Madame Soutan et que finalement, M. Collorgnou pourrait être élu premier vice-président de la région Occitanie. À voir, donc l'Assemblée régionale va se réunir bientôt, forcément. Je crois que le délai s'est fait en octobre pour que Madame Pinel démissionne. On va voir ce qui va se passer. Mmh. Mais ça va se jouer entre un Biterrois et un Narbonnais pour remplacer une Aveyronnaise.
Voilà.
Quant à
M. Collorgnou, lui aussi sera un de nos prochains invités. On aura peut-être l'occasion de le questionner un peu plus avant sur cette...
Comment il voit les choses, effectivement.
Sur cette situation qui se profile. Et on marque une deuxième pause. Après quoi, je le rappelle, nous retrouvons nos invités du jour, Jean-Paul Jauguin et Sophie Barberon.